L'après-match avec Jalal Bouzrara.
Bienvenue, chers amis, bienvenue à cette nouvelle édition de l'après-match. Nous sommes ensemble pour débriefer toute l'actualité du football, un petit peu partout en Europe. Ce soir, on accueille tout d'abord Hervé Penaud, notre monsieur, entre autres, mission Monsieur Ligue 1. Salut Hervé.
Bonjour à vous les amis. Quel plaisir d'être avec vous après ce week-end encore magnifique.
Il a de multiples casquettes également sur les ondes de Radio Méditerranée Internationale. Il s'appelle Aurélien Devernoy et c'est notre monsieur Première Ligue. Salut Aurélien.
Salut Jalal, salut Hervé, salut à tous. Plein de casquettes en effet, et vous savez, aujourd'hui j'ai parlé littérature et en plein milieu de la conversation, et ben on a parlé de George Best.
Voilà.
C'est pas incroyable ça?
extraordinaire. Donc moi là, en tout cas plutôt Hervé, la littérature c'est pas trop son truc hein.
Je sais pas pourquoi vous dites ça, mais vraiment c'est une manière de me sous-coter qui est terrible. Pas du tout, j'aime beaucoup lire les articles de l'équipe.
Alors c'est le plus c'est
et là, le plus littéraire les d'entre articles nous de l'équipe.
Ah, vous savez,
on peut considérer ça comme de
la littérature. Il faut se méfier des caricatures. Il faut se méfier des caricatures. Vous le savez bien, Jalal.
Effectivement. Alors, on va bien sûr évoquer plein de choses avec vous tous les deux. D'abord, bien sûr, en France, qu'arrive-t-il au Paris Saint-Germain? Cette défaite, étonnante défaite contre Dijon. Le PSG qui affronte Bruges en Ligue des Champions. On évoquera aussi Lyon, un léger mieux pour le Lyon avec Rudy Garcia, surtout avec Memphis Depay qui a permis à son équipe de l'emporter. Et match capital quand même pour les Lyonnais contre le Benfica Lisbonne. Et puis on parlera aussi de Marseille. On adore ça du côté de ce côté-là de la Méditerranée. En Angleterre, bien sûr, à l'image du week-end, c'est cette grave blessure du milieu de terrain portugais du club de Leicester face à Tottenham. On évoquera bien sûr Liverpool et City qui dominent toujours, mais que cela a été très dur. Emery sur un fil à Arsenal. On parle de Mourinho, apparemment approché pour le poste. Je commence tout d'abord avec toi Hervé, le PSG qui chute contre Dijon après déjà une défaite il y a quelques semaines face à Reims. Le PSG nous a pas habitué à des contre-performances pareilles.
C'est très étonnant, parce qu'il faut quand même le dire, nous sommes à la troisième défaite du PSG déjà. Alors, vous allez me dire, ils ont quand même 6 ou 7 points d'avance en championnat, donc c'est pas ça qui va les ennuyer pour la suite. Mais il n'empêche que quand vous êtes le Paris Saint-Germain, perdre chez le dernier du championnat, c'est une claque majeure. Et une claque majeure pour qui? Évidemment, pour Thomas Tuchel. Parce qu'on sait déjà que Leonardo a pas un amour immodéré de son entraîneur allemand. Et là, d'un seul coup, quand vous perdez à Dijon, quand vous êtes le Paris Saint-Germain, avec tous ces millions d'investis, et même si Neymar n'est pas là en ce moment, mais il y a eu le retour de Mbappé, d'ailleurs, qui met un but, vous n'avez pas le droit de perdre ce genre de match. Et c'est, le problème, c'est que ça s'ajoute. C'est l'accumulation, c'est un peu comme les mille feuilles, vous voyez. C'est qu'il y a eu Reims. Il y a eu Strasbourg, il y a eu Reims, et puis là, vous vous retrouvez avec ce nouvel échec du Paris Saint-Germain, et surtout contre le dernier de la Ligue 1. Et personne ne pouvait imaginer avant le match. Et l'entraîneur d'ailleurs de Dijon avait dit, j'espère que ce sera pas open bar, parce que on parle de Dijon, une équipe qui défensivement est très très faible, et en plus qui ne marque pas de but. Et là, d'un seul coup, ils marquent deux buts, et ils n'en encaissent qu'un seul. Donc il y a un vrai souci de Paris Saint-Germain, et surtout
oui,
un souci autour de l'entraîneur.
Il y a aussi un souci, mon cher Hervé, avec la connexion, on va essayer de régler ça rapidement. On va aller du côté de la première ligue anglaise avec, je le disais, Manchester City et Liverpool. Bon, ça a été un peu compliqué, mais qui reste solide dans ce duel qui s'annonce pour le titre de champion d'Angleterre.
Oui, ça a été compliqué pour les deux équipes parce que les deux équipes ont été menées au score déjà, et c'est pas forcément la même situation, parce que autant on savait que le déplacement de Liverpool à Aston Villa s'annonçait quand même compliqué, parce que Villa c'est vraiment une équipe qui est rude, hein, c'est vraiment une équipe à l'anglaise, avec des défenseurs rugueux, avec des milieux de terrain qui touchent pas mal le ballon, et puis des attaquants assez efficaces aussi, alors que City recevait Southampton qui avait pris une fessée monumentale le week-end d'avant contre Leicester 9-0. Donc on s'attendait pas vraiment à ce que City se retrouve en difficulté face à Southampton, et ça a été le cas. Et City s'en est sorti, on va dire, à l'expérience, voilà, il y a un moment, Southampton, ils avaient plus les moyens de tenir face à cette équipe de City qui est capable de faire rentrer des joueurs de très haut niveau en cours de match. Voilà, c'est une équipe qui est très compliquée à contrer. Liverpool à Villa, finalement, s'en est remis essentiellement à un joueur, et ce joueur, c'est Sadio Mané. Sadio Mané, il a été, encore une fois, j'ai envie de dire, décisif dans cette rencontre. Passe décisive pour l'égalisation d'Andy Robertson, et puis but à la dernière minute pour sceller le succès de Liverpool. Sadio Mané, plus j'y réfléchis, et j'espère que Hervé va revenir pour qu'on puisse en discuter, plus j'y réfléchis et plus je me dis, eh ben, il y a peut-être matière un ballon d'or quand même cette année pour le Sénégalais, parce que la concurrence cette saison, Ronaldo, Messi, Griezmann, c'est pas forcément ça. Peut-être que Sadio Mané a une chance.
Voilà donc pour Sadio Mané, l'attaquant de Liverpool. Qu'on pense, bien sûr, lui, il est l'amoureux, le fervent défenseur du football africain. Mais de là à parler de ballon d'or pour Sadio Mané, est-ce que c'est possible ?
Eh bien, moi, j'en rêve, pour tout vous dire. Mon rêve, c'est de voir Sadio Mané ballon d'or dans cette année. Parce que déjà, il le mérite. Parce que tout ce qu'il a fait, c'est phénoménal. Franchement, ce qu'il a réussi avec Liverpool, on l'a vu en Ligue des Champions, c'est énorme. Il a été beaucoup plus fort même que Mohamed Salah cette année. Il était présent lors du fameux match contre Barcelone. Parce que c'est ce qui a permis quand même à Liverpool d'enclencher cette dynamique ultra positive. Il a été meilleur buteur du championnat d'Angleterre sans tirer les pénaltys. Et puis là, surtout, c'est qu'il prolonge un peu cet état de grâce depuis le début de saison. Alors on se rappelle de la Super Coupe d'Europe, faut pas l'oublier, et puis là, ce qu'il a réussi sur ce match-là, avec cette passe du gauche, qui est phénoménale, la passe qu'il délivre pour Robertson est incroyable, et le deuxième but, et le but de la tête, où il vient couper le premier poteau, c'est peut-être une victoire qui comptera énormément pour la suite de la compétition pour Liverpool, et donc aujourd'hui, évidemment, pour moi, à mes yeux, je pense qu'il mériterait d'être ballon d'or, Messi, effectivement, sort aussi d'une énorme saison, il n'y a rien à dire, mais moi, je trouve que le hype, par exemple, sur Van Dijk, me gêne un petit peu, parce que généralement, les ballons d'or, on récompense quand même plutôt les attaquants, parce qu'ils sont capables de faire leur créativité, leur inventivité, plus que des défenseurs. Aussi grand soit-il, Van Dijk a été énorme, mais dans cette équipe de Liverpool, quand même, Mané a été, pour moi, je le mettrais un ton au-dessus. C'est un peu comme si à l'époque, on m'avait expliqué que Piqué est phénoménal, il est absolument incroyable, et qu'on en oublie qu'il y avait Messi.
Ah ouais, là c'est clair, ça a le mérite d'être clair. Le Paris Saint-Germain, donc, on y revient. Le PSG qui semblait avoir trouvé, bien entendu, son rythme. Stoppé net, donc, je le disais tout à l'heure, par cette modeste équipe de Dijon. Les Parisiens qui sont inquiétants, qui sont retombés dans leur travers. Ils se relâchent sans raison. Et puis, ce troisième revers qui vient, il faut le rappeler aussi, Hervé. Il vient après une série de victoires, des victoires probantes, je les rappelle. Le Real 3-0, Marseille 4-0, Bruges en Ligue des Champions aussi 5-0, 17 buts marqués, en 4 matchs depuis le 5 octobre, l'émergence de Mauro Icardi, et puis le sensationnel retour aussi de Kylian Mbappé, 7 buts en 4 matchs après cette blessure. Ça n'a laissé personne indifférent. On ne comprend pas aujourd'hui cette baisse de tension du côté du PSG. C'est inquiétant, pas par rapport à la Ligue 1, mais on dit, si jamais ça arrive en Ligue des Champions, ça peut encore plomber le club.
Mais le problème, c'est que ça n'arrive pas. Enfin, le problème ou l'avantage pour le Paris Saint-Germain, c'est que ça n'arrive pas en Ligue des Champions. Et c'est là où on pointait du doigt. Je parlais de Thomas Tuchel tout à l'heure. C'est là où il y a quand même une interrogation sur Tuchel. Est-ce que son discours passe ? Parce que chaque fois, il explique qu'il veut plus d'intensité dans la qualité de ses joueurs, sur des matchs secondaires, on va dire. Et finalement, il n'arrive pas à délivrer ça. Alors quand il s'agit d'un grand match, là, les joueurs sont, vous savez, ils sont préparés à 100%. Il n'y a pas trop de soucis. Il n'y a pas vraiment une gestion psychologique psychologique à faire autour de ces grands rendez-vous, et notamment en Ligue des Champions. Mais là, force est de constater qu'en championnat, il n'y arrive pas complètement. Alors qu'en Coupe d'Europe, les joueurs se donnent un maximum. On a l'impression, pour tout vous dire, alors j'espère que ce n'est pas le cas, hein, mais on a l'impression qu'il y a eu une sorte de point, vous savez, focal, le jour où vous avez perdu le match retour contre Manchester United au Parc des Princes. Et depuis, une équipe qui avait fait un début de saison phénoménal, rappelons-nous, l'année dernière, ils avaient quand même, après 12 matchs, 12 victoires en championnat. Ils avaient été énormes. Et pourtant, important, ça a complètement chuté. Et depuis, on a l'impression que il est un peu en équilibriste, Tuchel. Il n'arrive pas complètement à trouver l'équilibre justement dans son équipe, en dépit des grands joueurs, en dépit du recrutement qui a été fait. Eh bien, il n'arrive plus à avoir la main, sauf en Ligue des Champions, évidemment, sur ses joueurs. Alors, on se souvient quand même du match contre le Real. Hein, et si on estime qu'il a du poids dans les défaites, on peut dire aussi qu'il en a dans les victoires. Mais on sent quand même qu'il se passe quelque chose autour de Tuchel. Alors, se sent-il aussi complètement soutenu par Leonardo, ça c'est quand même une interrogation, mais ce qui est certain, c'est que sans les matchs de Coupe d'Europe jusqu'à présent, ils ont toujours répondu présent, et je les imagine mal, vous savez, contre Bruges, se planter cette semaine. Ce sera vraiment une surprise énorme, et franchement, s'il y avait échec contre Bruges, je pense que même le Thomas Tuchel serait sur un siège éjectable, puisque Allegri est toujours quand même dans les parages.
Ouais, Allegri dans les parages, mais le cas Allegri, on le verra dans la seconde partie, hein, parmi les candidats à un poste vacant aujourd'hui, celui d'entraîneur du Bayern de Munich. Je reviens en Angleterre, on va faire un petit peu une discussion ouverte entre les deux consultants de la Première Ligue et de la Ligue 1. L'image du week-end, en tout cas pour moi, je le disais tout à l'heure, cette grave blessure de Gomez, le milieu de terrain portugais, ancien joueur du Barça de Leicester, dans un choc entre, bien sûr, Gomez et Serge Aurier d'un côté, puis le Sud-Coréen Son. Des images qui sont terribles, qui, surtout quand on voit pratiquement le pied de Gomez complètement détaché de sa jambe, et Son, le joueur sud-coréen, en pleurs inconsolables après cet accident, on va dire.
Oui, c'est vraiment un accident, hein. C'est difficile de dire autre chose, parce que l'intervention de Son et après Gomez rentre dans Aurier, c'est pas méchant, si vous voulez, c'est maladroit, clairement. C'est pas un geste de défenseur, ce que fait l'attaquant de Tottenham, mais c'est pas très agressif, et voilà, ça s'enclenche mal. Le pied de Gomez se bloque, et voilà, c'est luxation, fracture de la cheville avec arrachement ligamentaire. C'est vraiment une blessure terrible, et c'est très 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 compliqué de se remettre de ce type de blessure. C'est compliqué. Enfin, je veux dire, on peut pas dire non plus Son l'a vraiment fait exprès, ou Son a fait un tacle de boucher, etc. Parce que c'était pas le cas. C'est vraiment la faute à pas de chance, et c'est vraiment dommage pour Gomez, qui retrouvait avec cette équipe d'Everton un niveau assez intéressant, avec une forme de régularité. Il était titulaire très régulièrement, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Voilà, c'est vraiment un gros coup dur pour le milieu de terrain portugais.
Un coup dur donc pour Gomez, l'ancien milieu de terrain donc du FC Barcelone. J'aimerais bien qu'on parle aussi du cas Arsenal et de celui d'Unai Emery, quelqu'un que tu connais très très bien aussi, Hervé. La parole d'abord à Aurélien.
Emery est vraiment en très très gros sursis du côté d'Arsenal. Ça ne veut pas dire qu'Arsenal va virer Unai Emery tout de suite, mais du côté des supporters, ça devient de plus en plus compliqué. Pas que Arsenal ait des résultats qui soient catastrophiques, parce que finalement, ils sont cinquièmes de la Première Ligue. Derrière, il y a Manchester United, il y a Tottenham. Donc, ce n'est pas non plus indécent comme place au classement. Mais ils commencent un petit peu à être largués par rapport aux quatre premiers, notamment le trio City, Leicester, Chelsea, qui commence à avoir 6-8 points d'avance. Je compte pas Liverpool, qui est déjà largement en tête. Et surtout, c'est la manière. C'est les supporters d'Arsenal ont du mal avec le style de jeu d'Unai Emery, ou du moins l'absence de style de jeu, avec des choix tactiques, des choix d'effectifs qui sont assez étonnants parfois, et qui surtout sont pas toujours cohérent. Il peut aligner une équipe pendant quelques matchs et puis changer et puis se dire ah bah finalement là je vais peut-être repasser à 5 défenseurs derrière, ah bah là je vais finalement mettre 4 et puis je sais pas trop quoi faire en attaque, est-ce que j'aligne Lacazette, Aubameyang, Pepe, est-ce que je mets que Lacazette, Aubameyang. On a l'impression qu'il sait pas trop où il va et ça les supporters ça les agace et ça fait que pour Emery ça commence vraiment à sentir le roussi du côté des Gunners.
Voilà donc pour ce qui est de cette première ligue anglaise, une question aussi, un retour sur le championnat de France, Hervé, avant d'attaquer ensemble avec toi et avec Aurélien, la Ligue des champions qui reprend ce mardi avec bien entendu Lyon, un léger mieux et avec un Memphis Depay qui a été une fois encore décisif.
Bah, tout est dit, hein. C'est-à-dire qu'avec Memphis Depay, quand Memphis Depay est à ce niveau-là, eh ben, c'est le juge de paix. Effectivement, c'est lui qui fait les différences et il a mis un doublé, un but à 95e minute en s'arrachant alors qu'il était fatigué pour marquer ce deuxième but, la victoire 3-2, ce qui permet en plus à Rudy Garcia de souffler un peu, parce que ça aurait été compliqué encore un nul contre une équipe de bas de tableau. Et puis, il a donné quand même un élan offensif à son équipe qu'il n'y avait pas avec Silvinho. Donc, j'allais dire d'un côté, tout est bien, qui finit bien pour l'instant pour Rudy Garcia, qui avait commencé par un match nul contre Dijon et qui sort de deux victoires contre Metz et contre Toulouse. Et puis surtout, arrive Benfica, où là, il ne faudra pas se planter. Parce que mine de rien, l'objectif, c'est quand même de se qualifier pour les huitièmes de finale Ligue des Champions. La défaite à Benfica a plongé l'équipe juste en dessous des deux premières places. Donc il y a victoire impérative qui est demandée contre Benfica. Mais attention, parce que Benfica, c'est une équipe qui est capable aussi de marquer, même s'ils n'ont pas été très forts à l'aller. Il faut quand même le reconnaître. C'est une bourde de Lopez qui leur a donné la victoire. Donc il y a vraiment de quoi faire contre cette équipe de Benfica. Mais il n'empêche, il faut toujours se méfier de la défense lyonnaise qui est capable à tout moment de prendre des buts. Donc ça va être serré, mais c'est un match capital pour Lyon et capital aussi pour Rudy Garcia, parce que ça se joue au Groupama Stadium où on sait qu'il n'est pas non plus adoré par les supporters, qu'ils l'ont accueilli avec plus, j'allais dire un peu plus que de la froideur.
Voilà donc pour cette formation lyonnaise, pour ce championnat de France, que doit-on attendre des clubs anglais engagés en Ligue des Champions? Il y a bien entendu ce Chelsea-Ajax intéressant, avec peut-être une petite revanche des coéquipiers de Hakim Ziyech, revanche après leur défaite qui n'était pas du tout méritée à l'aller à domicile à Amsterdam face à cette formation de Chelsea. Liverpool aussi, le tenant du titre, Liverpool qui affronte Genk, la formation belge.
Oui, bah alors qu'est-ce qu'on attend des équipes anglaises? J'ai envie de vous dire des victoires, des succès, des triomphes. Non, en fait, il faut que là les quatre équipes anglaises engagées en Ligue des Champions gagnent lors de cette journée. Parce que si les quatre gagnent, globalement, les huitièmes de finale vont s'ouvrir pour les quatre équipes. Alors, ça pourrait même être vraiment très concret pour Manchester City, parce que si Donetsk ne gagne pas ou fait match nul à Zagreb et que City gagne à l'Atalanta, je vous rappelle, l'Atalanta, c'est pas pour faire mal à Simone, mais à zéro point depuis le début de cette Ligue des Champions. Si City gagne à Atalanta, ils sont qualifiés si Donetsk ne gagne pas. Donc déjà, ça ferait un club qualifié. Derrière Liverpool, globalement, si ils gagnent, et c'est quand même fort probable contre Gand et que le Napoli règle Salzbourg, ça sera quasiment qualifié pour Liverpool aussi. En effet, le match avec un petit peu d'enjeu, c'est Chelsea-Ajax, parce que Chelsea ferait bien de confirmer cette victoire en terre néerlandaise lors de la dernière journée pour essayer de se donner de l'air et s'éviter de sentir le souffle éventuel des Espagnols de Valence dans leur dos. Et puis Tottenham, bah, encore une fois, c'est victoire obligatoire parce que le début de campagne de Ligue des Champions n'a pas été très bon. Là, ces déplacements sur la pelouse de l'Étoile Rouge de Belgrade, ils avaient gagné largement lors de la dernière journée contre cette équipe. Il faudrait faire la même chose lors de cette rencontre, rester pas trop loin du Bayern Munich et mettre derrière l'Olympiakos, par exemple. Donc voilà, 4 matchs, 4 victoires et tout serait parfait.
Avant de se quitter, Aurélien, parlons de José Mourinho. Alors, le scoop, c'est que José Mourinho est au chômage depuis plusieurs mois maintenant. Et c'est pas bon pour les autres techniciens que d'avoir, en tout cas les autres entraîneurs des grands clubs européens, que d'avoir dans les pattes monsieur José Mourinho. On l'annonce un petit peu partout. Lui-même, il a fait savoir il y a quelques jours qu'il était approché par un grand club et qu'il allait peut-être revenir plutôt que prévu sur un bond de touche. Mourinho apparemment donc approché par Arsenal. Mourinho qui pourrait également partir du côté du Bayern de Munich. Aurélien.
Oui, alors très honnêtement, hein, moi si j'ai un conseil à donner à José Mourinho, arrête d'embêter les clubs anglais et arrête d'embêter Arsenal. Va entraîner une sélection quelconque, le Portugal, le Brésil ou je ne sais quoi, mais arrête d'aller essayer d'enfoncer des clubs qui n'en ont pas besoin. Parce que quand il a laissé, que ce qu'il a laissé à Manchester United, c'est quand même une terre totalement brûlée. Et à mon avis, s'il allait à Arsenal, outre la réception pas facile des supporters, parce que faut vous rappeler le nombre d'insultes qu'a pu formuler Mourinho à l'égard d'Arsenal au fil des années, je suis pas sûr que l'accueil soit quand même très favorable. Je suis pas sûr que ça serait une bonne chose pour cette équipe qui est en pleine reconstruction que d'avoir un Mourinho à sa tête. Après, en effet, il y a des rumeurs comme quoi le board aurait commencé à lancer quelques pistes, quelques contacts. Moi, très honnêtement, je pense que Mourinho aurait plus de chances d'aller au Bayern que d'aller à Arsenal, au vu de l'historique, en tout cas, et du passif qu'il a avec le club. Après, voilà, toutes les surprises sont possibles. Et c'est vrai que Emery, comme je disais, donne pas vraiment satisfaction. Moi, si je devais miser sur des entraîneurs potentiels pour Arsenal, si Emery, finalement, se faisait licencier, je miserais plus sur un Mikel Arteta, l'ancien joueur d'Arsenal, l'ancien assistant de Guardiola à Manchester City, voire sur Eddie Howe, l'entraîneur de Bournemouth, qui est vraiment un super entraîneur et qui a fait des grandes choses avec Bournemouth et qui, peut-être, a les épaules de monter sur un plus gros club. Et pourquoi pas Max Allegri? Parce que finalement, Allegri, normalement, l'été dernier, c'était lui qui aurait dû aller, enfin, il y a un an et demi, qui aurait dû aller entraîner Arsenal. L'entretien s'était pas très bien passé, il n'avait pas vraiment convaincu les dirigeants d'Arsenal. Mais pourquoi pas une chance supplémentaire pour l'entraîneur italien? Voilà, moi, ça serait plutôt mon trio, sachant qu'il y a un autre nom qui revient beaucoup, c'est Brendan Rodgers, l'actuel entraîneur de Leicester. Mais vu ce que Leicester fait en championnat cette saison, je vois pas pourquoi Rodgers partirait en courte saison du côté d'Arsenal.
Merci beaucoup, Aurélien Devernon, notre consultant pour la Première Ligue. Merci également à notre ami Hervé Penaud. C'est la fin de cette première partie de l'après-match. On se retrouve tout à l'heure dans la seconde partie. Bienvenue les amis dans cette seconde partie de l'après-match qu'on entame bien sûr par Fred Hermel, celui qui normalement ouvre toutes les émissions, mais aujourd'hui il a été sympa, il a laissé la place aux autres. Fred Hermel, salut.
Dans ma j'arrive pas à dire le mot. Je veux dire dans ma grandeur d'âme, tu sais, je laisse passer d'autres correspondants qui eux aussi font le charme de cette émission. Bonsoir Jalal, bonsoir à tous.
Ils font aussi, bien sûr, le charme. Mais le vrai charme, c'est quand Fred Hermel est dans l'émission aux côtés d'un certain, un autre latin lui aussi, Simone Rovera. Ciao Simone.
Ciao, buonasera, bonsoir. Fred, tu peux dire la vérité. Tu as laissé passer quelqu'un devant parce que tu voulais être à côté de moi.
Exactement.
Il faut les dire. Il faut les dire. Il faut l'avouer.
On est les meilleurs duos de l'émission. Comme les autres ne sont pas là, on peut le dire. Mon préféré, c'est Simonet. Voilà.
Mais fais gaffe, hein, l'émission elle est présente sur podcast, sur les réseaux sociaux. Donc ils vont peut-être. Mais je vais monter cette partie.
Ouais, mais c'est-à-dire qu'avec Simonet, on a vraiment des ligas, des championnats hyper compétitifs, quoi.
Ouais.
Pas comme l'ami Aurélien de Vernois, que j'aime bien, mais où il y a, je sais plus combien, 13 points entre le premier et le cinquième, quoi. Enfin, je veux dire, bon.
Ah, ça, c'est
nous,
sûr, hein,
nous,
du côté.
C'est serré chez nous, hein.
Du côté de la Liga espagnole, c'est ultra, mais alors là, ultra serré. Dis-nous tout, mon cher Fred.
Ben, pourquoi c'est serré? On va commencer là-dessus parce que quand on regarde le classement, on s'aperçoit que oui, le Barça est en tête, mais que le Barça a déjà subi 3 défaites, que le Barça a fait des matchs nuls aussi, que le Barça a fait, voilà, il y a 3 défaites et un nul. Donc ça fait combien de points perdus? Ça fait 10 points perdus en 11 journées. C'est énorme. C'est énorme. Mais le Barça est en tête avec le même nombre de points que le Real Madrid, le même nombre de points que la Real Sociedad, un point devant l'Atlético de Madrid, qui a le même nombre de points que Séville. C'est-à-dire qu'en un point se tiennent 5 équipes. Qu'en 3 points se tiennent 7 équipes. Enfin, c'est, et 3 points, c'est rien, c'est un match. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, virtuellement, il y a 7 équipes qui peuvent être leaders la semaine prochaine. Donc c'est un truc de fou. Et ce week-end, sur les 8 premiers, il n'y a que la Real Sociedad qui a gagné. Donc c'est dire que tout le monde peut battre tout le monde. Alors moi, pourtant je suis calme, mais rappelez-vous quand il y avait le Real et le Barça qui faisaient des 100 points par saison, qui dès le mois de septembre avaient pris des longueurs d'avance sur les autres, et on parlait de la Liga bipolaire, on disait oui, manque de compétitivité de la Liga, etc. C'était quoi, il y a 6-7 ans? Là, comme tout le monde, comme c'est très serré, on dit ah oui, mais c'est un problème de compétitivité des grands qui sont moins forts qu'avant. On ne veut jamais reconnaître la vérité de ce championnat. Oui, ce championnat est ultra compétitif, pas parce que les plus gros sont moins forts, non. C'est parce que les plus petits sont plus forts. Parce qu'il y a eu une vraie politique lancée il y a 6-7 ans par Javier Tebas, le président de la Liga, et le gouvernement espagnol, de mutualisation des droits télé. C'est-à-dire qu'avant, chacun négociait dans son coin, et le Real Barça gagnait, empochait tout l'argent quasiment, il n'y avait plus que des petites miettes pour les autres. Mais là, il y a beaucoup plus d'argent pour les autres, donc ça rééquilibre le niveau. Et c'est très bon pour la compétitivité de la Liga. Cette Liga, même si en Europe, ben c'est dur parce que on gagne pas 5-0 avec une équipe B en championnat. On est obligé de mettre la meilleure équipe en championnat, même contre Alavés, même contre le Betis, même contre Levante ou Eibar. Et que 3 jours avant un match de Ligue des Champions décisif, eh ben, on peut pas se permettre de faire tourner. C'est peut-être aussi pour ça que c'est un peu dur aussi pour les grosses écuries espagnoles en Europe. Mais moi, je trouve ça passionnant. Et je terminerai mon propos pour dire simplement que cette égalité des points fait que pour moi, il y a 2 équipes qui peuvent vraiment prétendre au titre en dehors du Barça, du Real et de l'Atlético. Aussi, à cause du jeu qu'elles pratiquent, qui est vraiment le plus beau d'Espagne, c'est la Real Sociedad et le Séville de Lopetegui. Parce qu'en plus, la Real ne joue pas la Real, de San Sebastián, ne joue pas le Coupes européennes, alors que Séville joue la Ligue Europa, ce qui fait que il y a quand même beaucoup moins d'exigences pour les matchs du jeudi. Voilà pourquoi cette Liga est passionnante.
Une Liga passionnante avec un Barça décevant, un jeu décevant, des cadres absents, des interrogations qui s'accumulent. Une seule défaite à Levante, 3-1, qui a suffi donc pour faire ressurgir les pires cauchemars du club catalan avant sa réception du Slavia Prague en Ligue des Champions dès ce mardi. Une semaine après le 5-1 au Camp Nou contre Valladolid, cette déroute rouvre les plaies des défaites. On s'en souvient, en Ligue des Champions, à Liverpool, 4-0 contre l'AS Rome. Le Barça a beau être l'une des formations les plus redoutables d'Europe, il joue en confiance quand il le fait, mais il devient hésitant et fragile quand il est acculé. C'est quoi le problème au FC Barcelone? Tu as parlé tout à l'heure quand même de 10 points déjà laissés par le Barça depuis le début de la saison. 10 points abandonnés en chemin avec 3 défaites à l'extérieur. Bilbao, Grenade et donc Levante. C'est une première. Oh là là, depuis 2002-2003.
Oui, mais il y a quelque chose qui peut-être expliquer. Il y a un problème mental. C'est-à-dire que quand le Barça domine le match, tout va bien. Mais dès qu'elle est très bousculée, notamment à l'extérieur, on a l'impression que cette équipe du Barça ben, ne sait pas gérer les temps un peu plus mous. C'est-à-dire les... c'est impossible d'être au top et à fond pendant 90 minutes, mais l'important c'est de savoir gérer les temps un peu moins bons. Mais le Barça ne sait pas les gérer. On a l'impression que mentalement, c'est une équipe fragile. Sportivement, elle reste une équipe très forte, bien entendu, parce qu'on n'est pas premier de la Liga, en plus de la Liga la plus compétitive de ces dernières années, par hasard, mais on a le sentiment que mentalement, ça ne tient pas.
Le Barça, ça tient pas mentalement et pas que l'équipe du FC Barcelone avec beaucoup aussi d'interrogations autour d'Ernesto Valverde qui n'arrive pas à convaincre beaucoup de monde finalement.
Bah, moi j'aime beaucoup Valverde, mais je pense qu'il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Bon, ce qu'il a c'est pas mal quand même, mais Valverde, en fait, les gens se souviennent du Barça de Guardiola. Ou même de Luis Enrique, c'est-à-dire du Barça dominateur de la balle, mais qui avait les joueurs pour ça. Aujourd'hui, c'est plus pareil. Aujourd'hui, on se rend compte que quelqu'un comme Vidal, qui est quand même pas c'est quand même pas un orfèvre, hein, c'est-à-dire c'est quand même un jeu assez dur comme milieu de terrain. est nécessaire dans cette équipe et ça se sent quand il n'est pas là. Donc, faute de griffes, on mange des merles, comme on dit chez nous, mais voilà, faute de virtuose au milieu de terrain, ben, il y a des joueurs un peu plus rudes et il fait avec. Donc, automatiquement, on ne peut pas jouer avec Vidal comme on joue avec Iniesta. Voilà, ça c'est une évidence. Donc, ce n'est pas que la faute de Valverde.
Ah, ça c'est sûr, c'est pas que la faute de Valverde. Moi j'ai vu sur Marca il y a deux jours un anniversaire, je pense, du match où le FC Barcelone a aligné 11 joueurs de la Masia. Il y avait le défenseur brésilien Alves qui avait été titularisé, mais il s'est blessé, il avait été remplacé, je pense, si mes souvenirs sont bons, par Montoya, et on avait 11 joueurs de la Masia, des purs produits de la Masia. C'est plus le cas aujourd'hui. Ça pourrait, je sais pas, peut-être aussi expliquer les difficultés actuelles du Barça.
Non, parce qu'en fait, c'était pas normal d'avoir de produire une équipe avec 11 joueurs produits dans ton centre de formation, mais c'est impossible. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est quasiment une fois dans l'histoire. Le Real avait connu ça avec la Quinta del Buitre, vous vous souvenez, il y avait 5-6 joueurs, Michel, Butragueño, Sanchez, qui avaient tous été formés au Real Madrid. Mais c'est très rare, c'est des questions de génération. Là, il y a un vide dans la génération, dans la création de joueurs du centre de formation. Donc, le Barça doit faire comme les autres, c'est-à-dire acheter des joueurs en dehors. C'est évident que quand vous avez les bons joueurs chez vous, c'est pas la peine de les acheter. Mais quand ils sont pas assez forts, bah, vous devez aller ailleurs. Donc, mais je voudrais parler aussi quand même, si tu me permets, au-delà de ça.
Vite.
Il y a vraiment, Griezmann, ça s'arrange pas, quoi. Je sais pas si tu as vu, si vous avez vu, chers auditeurs, le geste, l'engueulade de Suarez parce que Griezmann avait frappé au but, mais ne lui avait pas passé le ballon, quoi. C'est dur, pour Antoine. C'est très, très dur.
Voilà, donc dur pour Antoine, dur aussi peut-être un peu pour Zinedine Zidane, l'équipe du Real Madrid qui visait alors un petit record, 3 victoires d'affilée, ce qui n'était pas arrivé depuis un an, je pense.
En fait, c'est pas avec Zidane comme entraîneur depuis son retour le 11 mars, il y a eu aucune fois 3 matchs de suite.
Voilà, et c'était peut-être l'une des attractions du week-end avec la réception du Betis Séville avec un excellent Zouhair Fodal, il faut le signaler.
C'est vrai.
Le Real Madrid tenu en échec et qui a refusé le cadeau de Levante vainqueur du Barça.
Oui, enfin, refusé. Oui, enfin, il n'a pas été en mesure de l'accepter, ce cadeau. C'est vrai que c'est 3 jours avant, il y avait eu un festival face à Leganés. Après, le Betis, c'est quand même plus fort que Leganés. Hein. Quand tu regardes la liste des joueurs, Leganés, c'est la lanterne rouge. Il y a eu une Manita 5-0. Et là, on sent que ces joueurs du Real ont fait le boulot quand même. En première période, il y a eu des mouvements assez brillants. Mais ils se sont découragés. En deuxième période, c'était moins fort. Et Zizou, finalement, ce nul, bah c'est quand même un point de prix parce qu'il a vu que Courtois a fait 2 bons arrêts quoi en deuxième période et que le Betis aurait pu faire un petit hold-up en deuxième période. Donc finalement, un point et comme dit Zizou, on n'est pas si mal quoi, on est tout en haut aussi. Enfin, il est premier, enfin deuxième à différence de but, mais premier au nombre de points avec le Barça. Donc c'est vrai que c'était une très belle occasion de prendre 2 points d'avance, mais là aussi, le Betis, ces 2 dernières saisons, était venu gagner à Bernabéu. Donc c'est une équipe avec des joueurs, tu parlais de Fedal, qui lui en défense a vraiment été très bon, mais que quand tu vois qu'il y a des joueurs comme Canales, qu'il y a des joueurs comme Fekir, il y a quand même des gardiens de niveau européen, hein, donc il y a quand même des joueurs de niveau européen, donc on peut Joël Robles, le gardien était très bon aussi, donc le Real n'a pas trouvé la faille, mais quelque part il faut pas tirer de conclusion. S'il n'y avait que le Real qui avait ce genre de match, on se dirait c'est le Real qui va pas, mais comme l'Atlético perd des points, comme le Barça perd des points aussi, c'est vraiment la compétitivité de la Liga qui permet de comprendre ça.
Merci beaucoup Fred, toujours un plaisir que d'évoquer avec toi cette Liga espagnole et la participation des clubs espagnols en Ligue des Champions. Venons-en maintenant aux formations italiennes, à la Serie A avec bien sûr la Juventus toujours aux commandes, l'Inter qui s'accroche toujours, la crise à Naples depuis 8 ans, jamais si peu de points après 11 journées. Commençons d'abord par Naples, mon très cher Simone Rovella. Est-ce que déjà on commence à évoquer l'avenir d'un certain Carlo Ancelotti? Et puis Naples aux deux visages. Naples qui peut être le premier club à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions dès cette semaine et qui est largué en championnat.
Oui, il y a beaucoup de thèmes sur l'actualité de Naples et malheureusement il n'y en a pas une qui soit positive. Aujourd'hui, Naples centre des critiques par ses supporters, par la presse, les anciens joueurs. On parle beaucoup du mercato où le président De Laurentiis a dépensé beaucoup avec l'arrivée de Manolas, de Lozano, mais qui peut-être n'était pas parfait. Ce n'était pas un mercato qui était utile pour combler certaines vides qui étaient effectivement arrivées avec la saison dernière, donc les départs de Hamsik, les départs de Raúl Albiol. Aujourd'hui, Carlo Ancelotti, qui n'était pas sur le banc de touche parce qu'il avait été exclu sur le match face à l'Atalanta, donc il n'était pas sur le banc de touche face à la Roma et cette défaite 2-1. Aujourd'hui, Carlo Ancelotti a même avoué être en désaccord avec la décision de son président qui a organisé, on peut dire, une mise au vert punitive pour toute la semaine, donc avant la Ligue des Champions, avant le prochain match des championnats face au Genoa. Et Carlo Ancelotti a dit « je ne suis pas d'accord ». Donc, pour l'instant, on voit qu'on ne parle pas d'un avenir d'Ancelotti loin de Naples, mais c'est sûr que les résultats sont importants. Il s'est retrouvé déjà à une dizaine de points de retard sur la Juve et l'Inter, quand l'objectif de Napoli, c'est de lutter pour les titres. C'est vraiment très, très compliqué. Autre chose qui rend un peu plus la polémique un peu plus piquante, on peut dire, parce qu'il y a un peu plus de piment, c'est que on sait bien qui est l'agent de Carlo Ancelotti, c'est son fils Davide qui fait un très bon travail, mais selon certaines, par exemple Antonio Cassano, ancien joueur qui aujourd'hui est un peu le roi des consultants de la télé italienne, ça sert à rien d'avoir un agent si jeune qui a 30 ans et me dit il n'a pas la personnalité, il dit de parler à certains joueurs qu'on pouvait être Ribéry à l'époque du Bayern ou d'autres grands joueurs. Donc il y a plein de thèmes de polémiques, mais tout part de quoi ? Deux résultats, déjà trois défaites pour Napoli, 18 points, c'est vraiment un record négatif depuis l'époque des Mazzarri, donc depuis 8 ans, Naples ne partait si mal en championnat. Heureusement, en Ligue des Champions, tout se passe bien, mais c'est vrai que la Ligue des Champions, c'était un peu la cerise sur les gâteaux, mais ce que manque aujourd'hui, c'est les gâteaux. Ce qui reste à manger, c'est la cerise, c'est pas assez pour une Naples qui avait beaucoup d'ambition.
Voilà, Naples très ambitieuse, comme bien sûr l'Inter de Milan. Mais permets-moi d'abord d'accueillir, en cher Simone, David Lortolari. Ce qu'il va nous dire va t'intéresser, j'en suis sûr. Salut David.
Bonsoir Jalal, salut Simone, salut à tous.
Ciao.
Alors il reste 4-5 petites minutes, allez, je suis vraiment sympa et il faut que je fasse vite parce qu'il ne faut pas dire que je les mange moi ces minutes-là. Le Bayern Munich, Kovac est parti, qui pour le remplacer? Quatre noms sont cités, Eric Ten Hag, Allegri, José Mourinho, voire même Arsène Wenger. La parole à David.
Oui, avec évidemment des paris qui sont faits hein, en ce moment même par les différents influenceurs en Allemagne. Kovac, c'était inéluctable, il faut en dire très rapidement un mot. On a parlé dans toutes nos émissions de manque de style de jeu, de manque de signature, de manque de pertinence dans la relation entre Kovac et ses joueurs et entre Kovac et ses dirigeants. C'est terminé à présent et c'est Hansi Flick qui a pris la succession intérimaire, qui était l'adjoint de Yogi Löw pour la Coupe du Monde 2014. Un entraîneur qui a toujours été dans l'ombre, mais qui est très performant. Alors peut-être que le Bayern prolongera un peu l'intérim avec lui. Surtout si le Bayern veut faire venir Erik ten Hag, effectivement, qui a laissé un excellent souvenir, ce technicien néerlandais en Bavière, parce qu'il a mené l'équipe de jeunes avec beaucoup, beaucoup de brio. Et on est très nostalgique de sa présence en Bavière. Donc pour les supporters, en tout cas, c'est un favori. Pour les dirigeants, c'est différent. Il y a un homme qui est immédiatement disponible, Jalal en Allemagne. C'est quelqu'un qui a un grand crédit dans ce pays, dans le football allemand. C'est Ralf Rangnick, surnommé le professeur, qui a fait monter Hoffenheim de façon merveilleuse il y a quelques années, ce petit village en première division, qui est toujours d'ailleurs Hoffenheim, on le sait, et puis qui a aussi derrière été l'architecte de la progression fulgurante des clubs RB. RB Salzbourg, RB Leipzig, bien sûr. Et Rangnick, du coup, est un favori logique pour arriver au Bayern, parce que c'est une pointure, il parle allemand et il a toutes les qualités. Et puis, en dehors de ça, effectivement, il y a quelques noms à suggérer, comme peut-être Allegri. Je n'ai pas d'informations sur des réseaux possibles concernant cet entraîneur italien pour la venue au Bayern, mais quand on regarde un petit peu ce qui se dit parmi les confrères aussi en Allemagne, le nom est évoqué, donc ça veut dire qu'il y a une hypothèse à prendre en compte sérieuse. Pour l'instant, je n'ai pas d'informations fiables à vous donner concernant Allegri.
Et de toute façon, quand il s'engage sur quelque chose, David Lortolarian, sait que c'est l'information est confirmée, que voilà, un entraîneur arrive.
Sauf que Jalal, pardon, mais on s'est fait un peu balader par le Bayern quand même, qui avait dit qu'il maintenait Kovac au moins pour le match de Coupe d'Europe à venir là dans deux jours, puis pour le match contre Dortmund le week-end prochain. Et en fait, ils ont changé d'avis et ils ont opté pour le remplacement de Kovac. Comme quoi, on peut se tromper quand on suit la communication officielle malgré tout.
Alors les amis, il y a ce match Inter de Milan, Dortmund. D'abord, je m'adresse à David. David, c'est toi qui me parles de ce match. Et après, je donnerai la parole à mon cher Simonet pour Naples. On reviendra à Naples qui peut se qualifier. D'abord, Dortmund, Inter de Milan. Peut-être pour une place, la deuxième après le Barça, qualificative pour les huitièmes de finale.
Bah oui, c'est très important et on a l'impression que Dortmund se complique un peu la vie psychologiquement, mentalement, dans les relations aussi, hein, au sein des joueurs, au sein du club, avec l'entraîneur. On l'a dit souvent, c'est des relations compliquées, alors que pourtant, sportivement, ça peut marcher très bien. Et on l'a vu encore ce week-end avec Dortmund qui s'impose tranquillement à la maison 3-0 contre un club qui n'avait encore jamais perdu cette saison, Wolfsburg. Donc Dortmund est capable de très bien faire et on a la sensation que ce club, encore une fois, se complique les choses inutilement. Si ça veut bien sourire, il peut bien sûr, et Simonet sera probablement d'accord avec cela, il peut lutter contre l'Inter dans un match comme ça, un match sec, quoi.
Simonet, l'Inter contre Dortmund.
L'Inter vit un moment, on peut dire, à deux visages. Les résultats sont très bons. À niveau physique, on voit une équipe qui a déjà beaucoup donné en ses débuts de saison, mais ils trouvent toujours des ressources, peut-être qui vont au-delà du physique, presque mental, pour arracher des victoires. La vraie force aujourd'hui, c'est Romelu Lukaku qui vit vraiment son meilleur moment peut-être de sa carrière. Imaginez 9 buts en 11 matchs de Serie A, un début comme ça. Les derniers qu'il avait fait à l'Inter, c'était un certain Monsieur Ronaldo, les phénoménaux. Donc il est vraiment l'homme parfait pour Antonio Conte et l'homme qui fait grandir les talents à son côté de Lautaro Martinez. L'Inter vit avec de l'enthousiasme ces moments. La défaite face à la Juve est déjà oubliée. Et c'est vrai que ces matchs face à Borussia pourraient relancer l'Inter après un début de Ligue des Champions catastrophique et faire un énorme pas vers la qualification. On dirait presque que même un match nul serait un énorme cadeau pour l'Inter qui, on rappelle, la dernière journée va recevoir le Barça qui pourrait être déjà qualifié. Donc, c'est un match très, très important pour les Nerazzurri et Antonio Conte qui a fait beaucoup tourner ces week-ends et devrait arriver avec la meilleure équipe pour aller chercher une victoire déterminante pour la saison de Nerazzurra.
Merci beaucoup Simone Rovera, notre consultant pour le football italien. Merci David Lortolari. Je vais vous retrouver bien sûr tous ensemble ce vendredi pour l'avant-match, pour débriefer un petit peu cette actualité de la Ligue des Champions surtout et parler aussi des prochaines journées de championnat chez vous. Ciao ciao les amis.